Alors, gros party, hier dans la nuit, là, dans le fond de samedi à dimanche, là, 2h du mat, la police reçoit un appel pour bruit. Ça se passe à Montréal-Nord, dans un garage. La police arrive, ils sont une centaine sur le party, plusieurs d'entre eux éméchés. Et là, lorsque les policiers interviennent, rappellent notamment les consignes sanitaires, eh bien là, la foule les prend à partie. Il y a même une policière qui s'est fait mordre par une des femmes qui était sur le party. Il y a deux autres personnes qui ont été arrêtées pour voie de fait, donc trois au total, incluant la femme qui a mordu. Et là, les policiers, voyant l'hostilité de la foule, ont été obligés de demander des renforts. Là, je vais parler avec un policier retraité du SPVM, André Gélinas, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
M. Gélinas, je pense qu'il faut essayer de visualiser ce que ça peut, ce à quoi ça peut ressembler. Tu débarques, tu es dans ton auto-patrouille, tu fais ton travail, c'est la nuit, m'en est sur soi l'appel, t'arrives, débarques de ton auto, tu t'approches, il y a du bruit, et là, à un moment donné, tu sens que la foule pourrait s'en prendre à toi. Comment, est-ce que ça vous est déjà arrivé, une histoire comme celle-là?
Oui, ça m'est déjà arrivé comme à beaucoup, beaucoup, beaucoup de patrouilleurs. Là. C'est des choses quand même qu'on peut vivre dans notre carrière, évidemment. Vous savez, lorsqu'on a un appel comme ça, bon évidemment, il y a un plaignant quelque part là, qui appelle la police. On a des informations qui sont des fois fragmentaires, des fois complètes. Là, les répartiteurs vont approcher, comme on dit, le plus de véhicules nécessaires ou des fois même les véhicules qui sont disponibles. Là, parce qu'il y a toujours une différence entre la nécessité et la disponibilité, évidemment, là, au niveau des effectifs. Et là, oui, lorsqu'on prend contact, on va évaluer la situation. On va premièrement essayer de faire une approche sécuritaire.
Dans une situation ça veut dire comme quoi, ça? C'est quoi, ça, une approche sécuritaire?
Ben, une approche sécuritaire, c'est de voir, d'un, en partant, le nombre de personnes qu'il y a là, l'hostilité, l'état des gens. Vous savez, lorsqu'on fait face à des gens qui peuvent, mettons, être, par exemple, en majorité intoxiqués, ben, je veux dire, la communication, puis ce qu'on appelle, nous, la désescalade, qui va faire en sorte qu'on va essayer de rencontrer les gens responsables de la fête ou du party pour justement passer le message et dire, écoutez, là, regardez, il y a telle ou telle infraction parce qu'on doit toujours intervenir sur des pouvoirs, une base de pouvoirs légaux. Ben là, ça complexifie les choses, là, dépendamment de l'état de sobriété des gens, du nombre de gens. Il y a des secteurs qui sont plus chauds que d'autres. C'est assez complexe comme situation, malgré que c'est quand même assez courant là, que ça se produit.
Et donc, à partir de quand est-ce que tu dis, là, on recule, là, c'est-à-dire qu'on va sortir d'ici, puis on va revenir en plus grand nombre, parce qu'on est à risque, par exemple, d'être encerclé, là?
Bien, évidemment, la première considération, ça va être la sécurité. Ça va être la sécurité des policiers, la sécurité des gens autour, des citoyens, parce qu'il y a évidemment une foule qui a un nombre important de personnes qui perdent le contrôle puis qui décident qu'ils s'en prennent aux policiers ou qui décident qu'ils s'en prennent à tout ce qui peut entourer l'événement. Évidemment, c'est des choses qu'on souhaite pas. Donc, lorsque la communication peut pas s'établir et que là, on réalise qu'au niveau sécuritaire, pour l'ensemble des raisons que j'ai énumérées, ça peut pas fonctionner, bien évidemment, on va se mettre en retrait, on va mobiliser des troupes et là, à ce moment-là, on va établir un plan d'intervention qui va faire en sorte que là, on va appliquer la réglementation qu'on veut appliquer. Et aussi, s'il y a des actes criminels, évidemment, comme vous mentionnez, qu'une policière qui serait faite morte, bien, il y a des choses comme ça. Il y a tout ce qui peut toucher, troubler la paix. Là, évidemment, il y avait aussi la législation en matière de santé publique. Bon, écoutez, c'est quand même assez vague parce qu'il y a un paquet d'actes criminels qui peuvent être commis dans une intervention comme ça.
OK, mais à partir de quand tu peux te défendre? Je veux dire, pour qu'elle te morde, là, il faut qu'elle soit proche de toi. On s'entend, là, je veux dire...
Hein,
bon, alors là, t'as le droit de te défendre comme policier?
Ah, c'est sûr, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que, écoutez, premièrement, pour que quelqu'un qui a eu une altercation comme ça, il y a deux situations. Soit que la personne a délibérément décidé d'agresser la policière, ou c'est lorsque les policiers ont voulu intervenir, soit pour disperser, soit pour procéder à l'arrestation parce qu'il y avait un acte criminel qui avait été commis ou une autre infraction. ben à ce moment-là, la personne peut résister à son arrestation et effectivement s'en prendre aux policiers, aux policières qui sont présents sur les lieux. C'est sûr qu'à un moment donné, lorsqu'on a soit qu'on a réuni les effectifs nécessaires pour tenter de mettre en branle notre opération, ou des fois, lorsqu'on prend un contact initial, ben c'est après un événement comme ça là, qu'on va faire l'évaluation du risque de écoute, là, non, on peut pas embarquer. On peut pas intervenir parce qu'on sait pertinemment qu'une foule, surtout lorsqu'elle est intoxiquée, ben on dit souvent que le quotient intellectuel d'une foule diminue beaucoup parce que les gens dans une foule vont faire des choses qu'ils feraient pas nécessairement de façon individuelle parce qu'ils ont un certain sentiment d'anonymat et d'impunité. Et c'est ça, c'est ce qu'on peut voir dans n'importe quelle manifestation qui dégénère aussi, là, pas nécessairement juste dans des parties.
Je vais demander à Luc Lavoie. Luc, tu es là.
Oui.
Comment tu as réagi quand tu as lu cette histoire-là, quand tu as entendu parler de cette histoire-là, toi?
Ben moi, il y a deux choses qui ont retenu mon attention, puis tu en as parlé au moins d'une. Là. La femme qui a mordu une policière, Bernard, on est-tu en train de devenir fou complètement? Et ensuite, le fait que le propriétaire des lieux... Elle avait pleinement autorisé le party, parce que lui, il trouve que, je le cite, la COVID, là, c'est une grippe pour les vieux. Il n'y a pas de jeunes qui sont décédés. Ce qui est évidemment complètement faux, d'autant plus que les plus récents chiffres démontrent qu'il y a à peu près 75% des nouveaux cas, que ce sont des gens qui ont 40 ans et moins.
Exact.
Alors, tu regardes ça, mais je reviens à ça, Bernard, l'image. La femme a mordu une policière. Ah ben là, je comprends plus dans quel monde on vit.
Monsieur Gélina?
Ben, écoutez, j'aimerais ça vous dire que c'est des choses qui sont exceptionnelles puis qui arrivent vraiment de façon absolument rare. Mais écoutez, des agressions envers des policiers, je ne dis pas que ça arrive à tous les corps de travail, mais je veux dire, moi, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu être témoin... Évidemment, il y a des gens qui résistent à leur arrestation, puis ça peut prendre la forme d'une résistance passive, ça peut prendre la forme jusqu'à une agression physique grave, là. Fait qu'évidemment, les gens utilisent, je vous dirais, le moyen du bord, ceux qui décident qui résistent, ceux qui ne respectent pas l'autorité. Et évidemment, c'est sûr et certain que c'est symptomatique là, d'une certaine état d'esprit.
Je peux pas m'empêcher de penser, André Gélina et Luc, je peux pas m'empêcher de penser que si la policière s'était défendue, puis mettons, là, tu te fais mordre à l'oreille, je m'excuse, mm-hmm. mais ça se peut que ton premier réflexe, ça soit d'y donner un coup de coude ou d'y donner un coup de poing sur la gueule. T'sais, ça se peut, là, hey, voyons, tu sais, je veux dire, Christian est en train de partir avec mon oreille, là. Ben là, je peux pas m'empêcher de penser, M. Gélina, qu'il y aurait peut-être eu une plainte pour violence policière. Comprends-tu?
Hein?
Oui. Oui, puis une caméra aurait filmé le tout.
Tu sais, puis là, ça aurait été les méchants policiers, puis peut-être même qu'ils auraient fait, évidemment, du profilage racial, là. Tu comprends, là? Je ne sais pas. Je connais pas les circonstances, mais mettons qu'on peut pas l'exclure.
Non, puis il faut comprendre aussi, c'est que la loi nous autorise à utiliser la force nécessaire. Et pour appliquer la loi, donc évidemment, si on est victime d'une agression, parce que le modèle national d'emploi de la force nous amène à aller jusqu'à la présence policière, l'invitation physique, jusqu'à l'utilisation éventuellement de l'arme à feu, si on craint, exemple, pour notre vie ou des lésions corporelles graves. Donc évidemment, quand on est face à quelqu'un qui va mordre, c'est une agression physique grave. Donc, évidemment, la policière aurait été justifiée d'utiliser la force physique, son poivre de Cayenne, son bâton télescopique. Vous savez, ça peut dégénérer rapidement une situation comme ça, surtout si les autres autour sont hostiles et menacent de s'en prendre à la policière et les policiers peuvent pas reculer.
André Gélina, policier retraité du SPVM, merci pour l'entrevue.
Toujours un plaisir, M. Drainville. Bonne journée.
Le co-co-co, t'allais dire?
Oui, co-co-co. Oh, non, ça va, j'avais rien à ajouter. Franchement. Voilà. Tout a été dit, Bernard.
On se reparle dans la deuxième heure, mon Luc.
Tantôt.
OK, on s'en va à la pause au retour. On vous parle de ces mafieux. Ils appartiennent à la mafia, là. Puis ils sont propriétaires de terres agricoles, des belles terres en Montérégie. C'est quoi le rapport, comme on dit? Vous connaîtrez la réponse après la pause.